Bonjour à tous et bienvenue sur www.permaculturedesign.fr. Je vous offre aujourd'hui une petite interview de Lydia et Claude Bourguignon, microbiologistes des sols, passionnés aussi, et donc qui vous permettra un petit peu de découvrir les interrelations entre le sol, sa fertilité, l'agriculture et même notre vie au quotidien. Et je vous encourage bien sûr à venir visiter notre blog pour tous les gens qui sont intéressés par l'agroécologie, la permaculture, la construction naturelle. Je vous dis donc à bientôt et bonne interview. Alors bonjour, aujourd'hui je reçois Lydia et Claude Bourguignon, les fondateurs du LAMS, le laboratoire d'analyse microbiologique des sols, auteurs du livre Le sol, la terre, les champs, retrouver une agriculture saine aux éditions Centre de la Terre. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'interviewer Lydia et Claude, car j'apprécie beaucoup leur méthode de diffusion, leur discours clair et accessible. Et puis, donc, je suis allé les voir plusieurs fois en conférence. Et ce discours pour un retour, ou plutôt une avancée peut-être à des pratiques agricoles saines, sont très intéressants pour nous à mettre au jour et puis à diffuser. Et puis je crois que votre expertise aussi est de plus en plus rare, donc c'est d'autant plus intéressant de vous avoir. Donc je vais vous laisser vous présenter, peut-être Lydia en premier, honneur aux dames.
Merci, bonjour. Donc, Lydia Bourguignon, avec Claude, on a fondé ce laboratoire en 1989. Je travaillais avant à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, sur la qualité des aliments de l'homme. Donc, en fait, j'étais au sommet et on a après créé ce laboratoire.
Ok.
Bonjour, Claude Bourguignon, cofondateur avec Lydia de ce laboratoire. Donc, j'étais aussi à l'INRA comme elle. Donc, moi, j'étais en microbiologie des sols. Donc, on était chacun aux deux bouts de la chaîne, finalement, de la production alimentaire. Et nous n'étions pas, nous avions été un peu choqués par chacun de notre côté, par la façon dont on gérait la recherche agricole française. Donc, nous avons décidé ensemble de créer un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Donc, ce laboratoire est toujours le seul à mesurer l'activité biologique des sols agricoles. Il est toujours indépendant. Nous ne vendons aucun produit.
D'accord, ce qui est relativement important aujourd'hui au vu des autres laboratoires dans d'autres milieux peut-être qui sont peu
Une
indépendants.
coopérative, etc.
Ouais. En quoi consiste le travail du LAMS? Donc, on a compris qu'il y avait bon, la partie analyse des sols, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous allez sur le terrain et puis chez les agriculteurs, chez les...
Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir des échantillons envoyés par la poste, on va sur le terrain, on fait le profil et on étudie déjà sur le terrain, un peu comme quand vous allez chez un médecin qui vous ausculte, on commence déjà à étudier le sol sur le plan physique, chimique et biologique. Et à partir de cette observation de terrain, on va faire des prélèvements de différents horizons qui seront ensuite analysés au laboratoire pour conseiller à l'agriculteur la façon de gérer son sol, la vocation de son sol et les économies qu'on peut lui faire faire en engrais, en travail du sol, en pesticides, etc.
D'accord, très bien. Donc, au niveau du sol, si on peut reprendre les fondamentaux de manière assez synthétique tout de même, est-ce qu'on peut brièvement décrire le rôle du sol et de ses habitants dans l'écosystème, et peut-être plus particulièrement dans le système agricole, et éventuellement l'incidence que ça a sur nos vies, parce que de temps en temps on ne le devine pas, mais évidemment, au niveau de la chaîne alimentaire, il y a une incidence très importante sur notre quotidien.
Alors, le sol, il faut vraiment avoir cette idée-là, le sol est vivant, ce n'est pas un support. Donc déjà, vivant, ça veut dire qu'on a de la faune. La plus connue, c'est les vers de terre, mais on a des mésofaunes que l'on regarde au microscope. La première chose, c'est cette importance dans un sol, c'est cette biologie. Cette biologie, cette faune, elle va permettre l'aération, la porosité du sol pour permettre à l'oxygène et à l'air de rentrer. Sans cela, les sols vont se compacter, l'eau ne pourra pas rentrer et surtout les plantes, parce que les racines d'une plante, elles sont comme nous, elles ont besoin d'oxygène. Si elles n'ont pas d'oxygène, elles ne peuvent pas descendre. Donc, les techniques modernes, l'utilisation massive d'engrais, on détruit la matière organique parce qu'en plus, cette faune, eh bien, elle se nourrit de cette matière organique. Comme on l'a détruit, eh bien, on a la perte de la biologie. Ouais. Après, dans le sol, effectivement, il y a la chimie. Ça, c'est ce que tout le monde parle. C'est la quantité d'éléments. Mais c'est pas. Ce sont les microbes qui permettent de donner ces éléments à la plante. Parce que la plante, en fait, elle ne se nourrit pas de cailloux. C'est les microbes qui vont permettre de solubiliser, de rendre solubles les éléments pour que la plante puisse se nourrir. Sans microbes, la plante ne veut pas se nourrir. Donc, si on détruit la faune, si on détruit les microbes, eh bien, en fait, on va aller sur la perte, sur des problèmes chimiques, d'où la pollution. On traite les agriculteurs de pollueurs, ben, c'est à cause de ça. C'est comme on n'a pas de faune, eh bien, les éléments, en fait, vont partir, vont pas rester dans le sol, vont pas être mobilisés et vont descendre dans la nappe phréatique, d'où les pollutions. Bon, on parle toujours du nitrate, mais on peut avoir d'autres produits, ben, par exemple des résidus de pesticides peuvent très bien aller dans les nappes phréatiques. Et puis le stade ultime, ça va être pour nous la physique est importante dans un sol, c'est, s'il y a des agriculteurs, un sol, c'est des argiles, des limons et du sable. Et quand on a un sol qui est détruit, qu'on n'a plus de faune, qu'on n'a plus d'éléments, eh bien le sol va perdre sa stabilité. Parce que le sol, c'est composé, en fait, c'est un complexe qui est fait d'argile et de matière organique. Si on a perdu certains éléments comme le calcium, eh bien, le calcium permet la stabilité de l'argile et de la matière organique par une cohésion, une liaison électrique. Donc, comme le calcium n'est pas là, ben, l'argile va partir, ne sera pas retenue. La matière organique ne sera pas retenue non plus. Elles vont être instables. À ce moment-là, quand il va pleuvoir, ben, l'argile va pouvoir rentrer dans l'eau. Elle va se mettre en suspension dans l'eau et on aura les problèmes d'érosion. Parce que quand vous avez de l'érosion, ben, souvent, quand vous voyez ça dans les médias, c'est des eaux qui sont chargées, qui ont de la terre. Eh bien, c'est les problèmes d'érosion. Ouais. Donc, en fait, le sol, c'est vraiment un équilibre au niveau de sa biologie, de sa chimie et de sa physique. Et c'est ce que nous étudions dans notre laboratoire.
D'accord. Et donc, cette érosion d'un point fait que notre sol s'en va, en fin de compte, hein, c'est ça, hein.
Complètement. Le sol s'en va parce qu'il n'a pas, de cohésion. Ouais. Et tous les agriculteurs, chaque fois qu'on travaille, les gens nous disent il faut de la fertilisation, c'est-à-dire les nitrates. On entend toujours parler des nitrates. Le problème de nos sols, c'est pas des nitrates seulement. Il manque de matière organique, il manque de carbone. Donc la matière organique, eh bien en fait, c'est les déchets, c'est les fécesses, hein, c'est les excréments des animaux mélangés avec des végétaux. Et c'est un compost.
Ouais.
Et on voit la non-compréhension de certaines idées. Par exemple, quand on dit il faudrait que toute la planète, qu'on devienne de plus en plus végétarien, destruction et élimination des animaux d'élevage et même des animaux, bah, quelque part, si on faisait ça, on n'a plus d'excréments des vaches, des moutons, des animaux domestiques, donc on ne fait plus de compost, on ne pourra plus remettre de la matière organique.
Il y a des nutriments dans le sol, oui, c'est ça. Ouais.
Donc, il faut vraiment... il y a un côté indispensable. C'est vrai, par contre, ce qu'on nous fait sur les on n'est pas obligé de manger, de consommer autant de viande, mais les animaux sont indispensables à l'équilibre. On parle d'un équilibre agro-silvo-pastoral. Agro, c'est le champ, effectivement. Silvo, c'est la forêt. La forêt est indispensable à l'équilibre et pastorale des animaux. C'est absolument lié. Et ouais. Dire qu'on va se passer de cela, c'est impensable. Enfin, c'est pas viable pour la planète. Puis il y a certaines zones dans le monde où vous ne pouvez faire que, par exemple, en France, les Alpes, eh bien, c'était des pâturages.
Ouais,
les pâturages, Là, c'est pour les bêtes, on ne peut pas faire de céréales ou de maraîchage.
Bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on n'a plus ce pastoralisme. Les moutons, par exemple, qui nettoyaient les forêts, n'ayant plus ce pastoralisme, on a des paysages entiers qui se ferment. Et quand on abandonne une terre, c'est comme si vous abandonnez un animal apprivoisé. Eh bien, en fait, elle va, d'une certaine manière, elle va mourir ou elle va mettre des mauvaises herbes ou des arbres ou des adventices qui ne sont pas intéressants. Donc, c'est une vraie. De temps en temps, il faut remettre les choses centralement, quoi. Le pastoralisme, les animaux, les excréments sont indispensables pour la vie de nos sols.
Y compris pour la conservation de nos paysages aussi, puisqu'ils ont été beaucoup construits avec l'élevage, hein.
Mais complètement. On a de temps en temps, et quand on révèle ça, parce que je dis bien, on mange trop de viande, les feedlots, les animaux parqués, ça c'est absolument inadmissible, mais on peut très bien remettre les vaches à l'herbe, on peut très bien remettre des moutons, comme vous avez dans certaines régions des Causses, par exemple en France, complètement abandonnées. Autrefois, on faisait passer les moutons qui nettoyaient les forêts, et on avait des forêts qui ne devenaient pas, où on pouvait se promener, qui n'étaient pas remplies de ronces, ce qui pose certains problèmes au niveau, par exemple dans le sud de la France, au niveau du feu, parce que les forêts étaient entretenues par le pastoralisme. Donc on voit aussi que c'est un équilibre, c'est pas chacun pense dans son pré carré, je veux ça. Et si on parle dans le monde, ben, vous avez certaines peuplades où il n'y a pas de végétation, ben, heureusement qu'ils ont leurs animaux pour pouvoir se nourrir.
Tout à
Donc
fait.
en fait, il faut on parle de mondialisation, bien oui, il y a une forme de mondialisation et on ne peut pas supprimer les animaux comme ça.
Est-ce que, alors vous quand même faites beaucoup de déplacements en France et à l'étranger. Vous devez avoir quand même un panel, vous devez voir un panel assez important de sols. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'état des sols en France? Quel est l'état des lieux?
Par exemple, les sols ont été très dégradés, surtout sur le plan biologique. C'est-à-dire qu'on voit une chute très importante de la faune et au niveau microbien de la disparition des basides d'hémicycle et des champignons qui fabriquent l'humus. Donc ça a des conséquences graves. Bon, par exemple, si on prend les vers de terre, on est passé de 2 tonnes à l'hectare à moins de 100 kilos. Alors le résultat de la disparition de la faune, c'est que les sols se compactent et puis donc, bah, évidemment, inondations, etc., quoi. Donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir aussi que l'effondrement de la faune du sol, bah, ça fait chuter tous les oiseaux, tous les animaux qui s'en nourrissent.
Donc ça a un impact très important sur la biodiversité aussi.
Voilà, donc les sols sont pas en bon état biologique. Alors, c'est lié aux excès d'engrais qui ont minéralisé la matière organique et qui font qu'il n'y a plus de faune. Sur le plan microbien, on voit une disparition donc, des champignons. Et ça, c'est eux qui fabriquent l'humus. Donc l'état des sols sur le plan biologique est très mauvais. Sur le plan physique, bah, ils sont beaucoup de compaction. Par contre, au plan chimique, quand on les étudie, bah, ils sont très, je dirais, ils sont même trop riches en potasse, en phosphore. Il y a eu trop d'engrais mis dans les sols. Il y a des excès d'éléments nutritifs.
Des excès d'un côté, des manques de l'autre, en fait.
Voilà.
Alors, au vu de l'état de ces sols, donc bon, les pratiques, on voit, sont à revoir. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour régénérer ou éventuellement et puis ensuite pour conserver ces sols en bon état? Qu'est-ce qu'on a comme moyen? J'ai vu dans votre livre que vous parlez de techniques comme le semis sous couvert ou les choses comme ça.
Donc il faut remettre de la matière organique dans les sols, il faut remettre du carbone, qui manque le plus dans nos sols. Ils sont riches en chimie, mais ils sont très pauvres en carbone. Donc il faut remettre du carbone, et pour ça, il y a plusieurs techniques. Hein. Si on est sur des surfaces type maraîchage, des surfaces faibles, on peut apporter directement du compost ou du mulch, ou ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Donc ça, c'est pour des sols vraiment très dégradés, qui n'ont plus d'activité biologique du tout.
Donc là, il y a une importance aussi de gestion au niveau du compost, de savoir aussi fabriquer un compost parce que il y a un savoir-faire quand même là aussi.
Ah oui, c'est un vrai savoir-faire.
Est-ce qu'il est toujours présent? Donc vous formez les gens pour faire ça?
Voilà, parce que problème qu'on a, c'est que les fumiers ne contiennent plus assez de paille. On est sur des fumiers beaucoup trop riches en excréments, puisque les bêtes, la catastrophe de l'élevage industriel, c'est qu'on ne met plus de paille sous les animaux, on les met sur quatre bottines.
Ouais.
Et donc, on se retrouve avec des lisiers qui sont beaucoup trop pauvres en carbone et beaucoup trop riches en azote, mmh. et qui donc polluent l'atmosphère, enfin détruisent la couche d'ozone par le dégagement excessif d'ammoniac.
Ouais.
Et ça, c'est lié à la séparation dans l'espace, créée par des technocrates. On a séparé, on a mis d'un côté l'élevage, donc tout en Bretagne, et ou dans, tout dans les montagnes, et puis il y a toutes les céréales au même endroit. Donc il n'y a plus cet équilibre agro-silvopastoral.
Uh-huh.
Donc ça, c'est un vrai problème, parce que ça coûte très cher, le transport. Et aller chercher des lisiers en Bretagne pour les mélanger avec les pailles de la Beauce, c'est des coûts financiers absurdes.
Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et donc... conserver un sol couvert, c'est, ça a une importance fondamentale.
Alors pour
aussi.
pour les gens qui n'ont pas, enfin qui ont des grandes surfaces, donc ce qu'on développe nous dans notre laboratoire, c'est ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert, c'est-à-dire arrêter le labour et tout le temps laisser le sol couvert par la végétation.
Oui. Alors l'exemple de la nature est, est probant là aussi parce que il n'existe pas de sol à nu dans la nature, donc.
Donc le principe c'est toujours à partir du moment où on ne dilue plus par le labour la matière organique, on va pouvoir la concentrer en surface. Donc on va pouvoir relancer la faune, c'est-à-dire que le taux de matière organique augmentant, la faune va pouvoir revenir. Et le principe, c'est de ne plus jamais laisser le sol nu.
D'accord. Alors justement, là la question, c'est vrai que par rapport à l'agriculture conventionnelle, entre parenthèses, le labour, c'est quand même, ça fait presque plusieurs milliers d'années que ça existe, hein, c'est peut-être en tout cas plusieurs centaines, mais comment on aborde les choses avec les agriculteurs aujourd'hui qui croient beaucoup au labour encore, donc comment on leur parle de ces choses-là en fait?
C'est effectivement très très difficile parce que, comme vous dites, il y a 6000 ans qu'on laboure et faire arrêter ça, eh bien, c'est pas facile pour les agriculteurs, d'autant plus que, je dirais, on n'est pas aidé par les instituts nationaux de recherche agronomique et à la limite les industriels parce que dans le non-labour, en fait, vous avez moins de consommation de matériel et moins de consommation de sol. Donc,
évidemment.
En plus, c'est des techniques quand même compliquées, puisque l'agriculteur, il va être confronté, on lui dit que le non-labour, semi-direct sous couvert, c'est utilisation de glyphosate. Donc, on donne ce côté négatif de la technique. Or, on peut utiliser des plantes de couverture qui sont gélives ou qui les broient. Donc, c'est vraiment c'est parler, essayer de faire que des agriculteurs aillent voir d'autres agriculteurs qui sont en semi-direct. Par exemple, la semaine prochaine, on a un groupe d'agriculteurs qu'on emmène chez les agriculteurs qui font du semi-direct sous couvert, qui ont très peu, voire pas baissé leur rendement, qui n'ont pas perdu d'argent, au contraire, qui ont plus de marge pour montrer un exemple comment ça fonctionne et en fait que c'est bien. Mais c'est extrêmement compliqué. On a, je crois qu'il y a 3% d'agriculteurs en semi-direct, disons que c'est technique de non-labour, c'est compliqué parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que ça va pas marcher.
Ouais.
Et c'est des techniques qui ne sont pas accompagnées parce que nous, on a quelques agriculteurs, donc des clients, à la suite d'une analyse, on va leur dire, on va les amener là-dessus, mais quelque part, c'est pas enseigné. On est tellement d'accord, c'est des techniques qui sont compliquées, et c'est beaucoup plus compliqué que de labourer et de semer. Il faut connaître ses couverts, il faut penser à la rotation. Quand on fait du non-labour, du semi-direct sous couvert, on est obligé d'être en rotation. Il y a des agriculteurs qui ne veulent pas en entendre parler.
Ouais.
Donc là, on dit, vous ne pouvez pas. Donc voilà, on est. C'est très long. C'est très, très long.
C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais durable. Et c'est vrai que l'agriculture qu'on a sous les yeux, enfin, qu'on a pratiquée jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que, bon, on n'est pas sur des systèmes qui sont durables et fonctionnels pour les années à venir, notamment au niveau de la hausse des coûts énergétiques qui arrivent de plus en plus. Et donc, c'est vrai que tout ça nous amène vers des nouvelles façons de voir l'agriculture qui vont certainement mettre du temps à se mettre en place, mais votre travail là est vraiment vraiment exemplaire.
Oui.
Donc c'est l'agrologie, c'est ce que j'ai, c'est le terme qu'on a employé sur ce que vous avez
Mais pour
écrit.
revenir sur cela, je veux dire quand même, dans les mentalités, il y a des choses qui ont changé. Mais il y a 20 ans, quand on a commencé à dire qu'il ne fallait pas labourer, parce que quand on laboure, le vrai labour, le labour couché, c'est-à-dire avec la rasette, avec l'outil qui retourne complètement la terre, et qui met la matière organique en profondeur, donc elle ne respire pas. Quand on disait ça il y a 20 ans, je vous assure, les gens pensaient qu'on était descendu d'une autre planète, qu'on avait perdu la raison. Ça,
J'imagine.
c'est petit à petit, donc on disait dans les conférences ou quand on allait voir les agriculteurs, bah déjà, faites enlever la rasette, faites un labour dressé. Donc ça permettait déjà à la matière organique de ne pas être enfouie. Et maintenant, comme vous voyez quand même de plus en plus, on en parle de plus en plus, il y a ce qu'ils appellent les TCS, quoi. C'est un outil qui remue la terre sur 10 cm. Des labours profonds comme il y en avait il y a 20 ans, il y en a encore, mais il y en a, on voit beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent de labourer.
Ouais, c'est
Le
vrai.
geste
C'est vrai.
vrai du labour, le labour, en fait, on retourne sur 15-20 cm, on amène des labours beaucoup plus profonds. Donc on voit que petit à petit dans les mentalités, ça a changé. Le semi-direct sous couvert, qui là, on ne touche plus à la terre, on sème directement dans un couvert, il va falloir du temps.
Ouais.
Mais je pense qu'il y en a certains, il y a des agriculteurs qui le font, il y a des agriculteurs qui veulent aller voir comment ça fonctionne. Donc petit à petit, ça mettra peut-être 15 ans, mais petit à petit, on arrivera à ces techniques-là, comme on a abandonné dans beaucoup de régions, de labour profond, retourné.
Ouais, tout à fait. On voit vraiment apparaître de plus en plus de pratiques. Ici, moi je suis dans le Périgord, je vois pas mal de compost réapparaître ou de choses comme ça, des gens qui achètent des décompacteurs qui travaillent différemment. C'est vrai qu'il y a le changement sera certainement assez long. Et quand même, bon, l'essentiel c'est d'être sur le chemin, comme on dit. Pour vous, comment sera l'agriculteur de demain et éventuellement qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un aujourd'hui qui veut s'installer comme agriculteur?
Alors moi, la première chose que je conseillerais à un agriculteur, c'est effectivement s'il a été dans une école, il a appris, et donc il a une connaissance, mais d'oublier pratiquement tout ce qu'on lui a dit à l'école. Il le sait, mais d'oublier. C'est-à-dire, et puis faire confiance à la nature. En fait, avoir confiance dans le terrain que l'on a, le comprendre, mais avoir confiance. Et on voit trop d'agriculteurs qui en fait ont peur et vont utiliser pas mal de produits. Donc ce côté d'avoir confiance, la nature a nourri des hommes et elle peut nourrir. Donc essayer d'être au plus près et de se dire, eh bien on n'est pas forcément obligé d'utiliser autant d'engrais et de revenir à un certain bon sens. Je crois qu'il faut redonner une confiance, une dignité aux nouveaux agriculteurs, mais essayer qu'ils ne vivent pas avec cette peur constante. Ça va pas pousser, ça va pas. C'est vrai qu'ils vivent avec les intempéries. Le temps est difficile à gérer, mais c'est certainement une nouvelle agriculture. Et prendre ces concepts, ne pas labourer, et peut-être aussi accepter que dans certains endroits, je ne ferai pas ce que je voulais, par exemple. Il y a certaines zones où vous ne pouvez pas faire certaines cultures parce que la terre n'est pas adaptée pour ça. Acceptez ce que la terre vous dit. Et je pense que ça changerait énormément la donne.
Il y a une notion de terroir aussi dans votre livre qui est bien exprimée et qui est très importante aussi.
Ah oui, c'est ça. Quand on parle, tout à l'heure, Claude parlait de vocation de sol, où, oui, les sols ont des vocations, vous ne pouvez pas faire. Mais au départ, on était parti sur un support, on a dit un sol, c'est un support. Si vous mettez toute la fertilisation possible, nous, on maintient des hommes, des êtres vivants, qu'avec des solutions en perfusion et tout, on peut maintenir. Le sol, c'est ce qu'on a fait. On l'a perfusé d'éléments, d'irrigation, on met l'eau, on met tous les éléments. Mais c'est pas la vie. Et donc, les sols, ils ont une vocation. Quand vous êtes dans des zones sèches, eh bien, il faudra chercher peut-être du sorgho et pas du maïs irrigué. Le sorgho supporte mieux la sécheresse. Ouais, on veut bien en fait être en accord, écouter cette nature, être en accord, être avec elle et pas contre elle.
D'accord, c'est une belle phrase. Claude, vous voulez ajouter quelque chose? Vous aussi, vous auriez peut-être des conseils de votre côté à donner?
Non, je crois que tu as bien résumé les choses. C'est vrai que c'est plus ça. Il y a beaucoup de psychologie dans le travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut aider les agriculteurs, comme je dis, d'avoir plus confiance dans la nature. Mais ça, c'est souvent plus un travail psychologique que simplement technique. Ouais. Ils ont été tellement abusés par les marchands d'engrais qu'il faut, souvent les aider, les soutenir.
Très bien. Alors, vous les aidez, vous les soutenez. Vous pouvez vous rendre sur www.lams-21.com et contacter Lydia et Claude Bourguignon si vous avez besoin de leur conseil et de leur service. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Lydia et Claude.
Merci.
Et puis, bonne continuation à vous. Donc, peut-être qu'on se croisera de nouveau lors d'une conférence. Merci en tout cas.
Merci. Allez, au revoir.
Au revoir. Voilà, bien écoutez, très heureux de vous avoir, d'avoir pu vous mettre à disposition cette interview de Lydia et Claude Bourguignon. Je vous encourage tous, lecteurs et auditeurs de Permaculture Design, de venir faire un petit tour sur le site. Et de nouveau, si vous avez l'intention de découvrir un petit peu tous ces nouveaux concepts respectueux de l'environnement, eh bien vous pouvez vous rendre sur www.permaculturedesign.fr. Vous avez la possibilité d'y télécharger le guide du permaculteur débutant qui vous permettra de découvrir un petit peu tout plein de choses pour créer des lieux de vie durables, et y compris des éléments sur le sol dont nous venons de parler avec Claude et Lydia. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt pour un prochain article ou une prochaine interview. Salut !